Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Shalom. Nous sommes toujours avec Alexandra Labastine, auteure d'une magnifique biographie et passionnante biographie que je vous encourage à acheter, Le Chant d'un Partisan, publié aux éditions du Cerf avec une préface du général Olivier Tramont, officier parachutiste, qui retrace la vie héroïque d'André Zirnel. Dans notre premier volet, nous avions abordé un peu le parcours philosophique, historique et militaire et absolument héroïque de André Zirnel. Mais dans cette deuxième partie, nous voudrions parler de la légende juive de Zirnel. Parce que Alexandra Labastine, comme moi-même, comme Simon Epstein, grand professeur d'histoire à l'Université de Jérusalem, ont cru pendant longtemps qu'André Zirnel était juif. Alors pourquoi l'ai-je cru? Après je demanderai à Alexandra pourquoi elle l'a cru. C'est que j'avais lu dans les mémoires du colonel Rémy, qui était le numéro 2 des services secrets de la France libre, qui était un antisémite farouche, et pour qui il y avait des mauvais juifs et des bons juifs, que Zirnel faisait partie des bons juifs. Et donc quelqu'un qui s'appelle Zirnel, dont la famille a fui l'Alsace en 1870 comme 40% des juifs alsaciens, soit juifs, me paraissait tout à fait logique et normal. Voilà l'origine de mon erreur. Mais Alexandra, d'où vient votre erreur à vous et comment avez-vous découvert la vérité?
Alors, je dois dire que quand je me suis intéressée au début à Zirnel, c'était donc à l'été 2016, je le disais tout à l'heure, et j'étais au kibboutz, je n'avais pas beaucoup de documentation. Donc, je regarde un peu à droite, à gauche, et je vois Zirnel, juif. Et y compris aussi dans la notice Wikipédia. Ça me semble parfaitement logique. D'abord, ce texte, ce poème, sa prière, me semblait sonner comme une prière très juive. Ensuite, il y avait le colonel Rémy, c'est lui le vrai responsable. Et puis Simon Epstein, notre ami historien, qui a pris les fantasmagories antisémites du colonel Rémy au pied de la lettre et qui lui-même fait il nous explique que Zirnel est juif. Donc il n'y avait pas tellement de doutes à avoir. En plus, les Alsaciens lorrains étaient surreprésentés au sein de la résistance extérieure, de même que les Juifs. C'est-à-dire que si les familles françaises, franco-françaises, avaient donné autant de fils à la résistance que les familles juives, ce n'est pas 50 000 Français libres que nous aurions eu, mais 240 000. Et là, je cite les chiffres de l'historien Jean-François Mourassol. Tout à fait. Donc, ça, c'était c'est à l'origine de notre erreur. Mais enfin, ce n'est pas non plus un crime.
Non,
contrairement à ce qu'un monsieur notaire de sa profession, qui est le vice-président d'une petite association mémorielle liée à la résistance, prétend, allant téléphonant dans tout Paris pour expliquer qu'une sioniste met ses pattes sur un héros français et que c'est tout à fait problématique. Enfin, ça lui déplaît foncièrement.
Je tenais à le dire. C'est l'écume des choses, mais c'est pas grave. La caravane hurle, quoi, le chien hurle, la caravane passe. Mais justement, quels sont les autres indices? Parce qu'il n'y a pas que ça. Pour vous comme pour moi, il y a d'autres indices qui font que la légende juive de Zirnel soit tout à fait logique. Par exemple, son goût pour la philosophie, son maître, son sujet de thèse. Sur qui travaille-t-il?
Oui, ses trois philosophes préférés sont Bergson, Spinoza et Martin Buber, que peu de gens connaissent à l'époque, trois très grands penseurs juifs. Donc ça, c'est un indice aussi qui pouvait nous laisser penser qu'il était juif. Et c'était assez naturel. Et puis le nom à consonance allemande qui signifie d'ailleurs un héros en colère, ce qui lui va,
va
très bien.
Et alors, racontez-nous un autre indice ou un accident de l'histoire ou un hasard objectif formidable. Quand il quitte l'armée du Levant pour rejoindre la force française libre, où passe-t-il, où arrive-t-il et que fait-il?
Oui, alors ça c'est extraordinaire et c'est aussi ce que les historiens qui pratiquent l'histoire en surplomb ne comprennent pas. On lit par exemple dans la notice de l'ordre de la libération sur André Zirnel qu'il a déserté de Beyrouth et puis il atterrit directement en Égypte pour reprendre le combat avec le premier Bill, c'est-à-dire sur un tapis volant. Bon. Quand on connaît un peu les lieux, on comprend qu'en fait Zirnel est sans doute parti en taxi de Beyrouth, c'était ce qu'on faisait en général. On se faisait déposer pas très loin de la zone frontière, qu'on connaît bien. Et puis, il ne pouvait pas passer par le poste routier de Nakoura, Roche à Nikra, puisque là, on avait des gendarmes maréchalistes et la frontière était très bien gardée. Et puis en plus, les douaniers, les gardes frontières anglais, le livre blanc venait d'être promulgué, ils étaient sur les dents. Donc, Zirnel, avec d'autres, fait partie de ceux qui vont crapahuter en solitaire, de nuit, tout seul, à travers les rochers et les montagnes, enfin les reliefs étaient escarpés, en Galilée occidentale.
Il n'arrive pas en Égypte en faisant ça ?
Et alors, il n'arrive pas directement
en
Égypte.
C'est étonnant.
Voilà, c'est très très étonnant. Il arrive.
Ça s'appelait la Palestine, je crois.
Oui, ça s'appelait la Palestine mandataire, mais il arrive en Palestine mandataire et il arrive aussi au sein du Yishuv. C'est-à-dire qu'il croise une patrouille britannique qui lui indique qu'il a quelques copains français qui eux aussi ont déserté et qui se rassemblent près d'un aqueduc où se trouve une garnison britannique et il y a de la place. Et il cantonne là et il lui propose de l'y amener. Et on lit toujours dans les livres d'histoire que c'est près de Haïfa. En fait, c'est près de Saint-Jean d'Acre. Et quel est ce lieu ? Et là, je n'en revenais pas quand je l'ai découvert. C'est qu'en fait, il s'agit du kibbutz Bet Lochamei Yagetaot, le kibbutz des combattants des ghettos, c'est-à-dire de la résistance juive armée au nazisme.
À l'époque, et pour ceux qui connaissent ce lieu, il y a un aqueduc romain, voilà. Et les tentes de ces quelques déserteurs français sont plantées sous l'aqueduc romain, là, comme le dit tout à fait Alexandra, là où il y a lieu aujourd'hui, le kibbutz du ghetto, des combattants du ghetto, et le très beau musée des combattants et de la résistance juive.
Oui, et c'est très intéressant parce qu'en plus, personne ne le sait. J'ai interrogé quelques archivistes, quelques historiens du centre de recherche attenant au musée. Personne n'avait entendu parler du fait que les tout premiers rebelles du Moyen-Orient, les tout premiers gaullistes du Moyen-Orient s'étaient rassemblés là en juillet 40. Et trois semaines, c'est long. Quand on a tout laissé derrière soi, qu'on n'a plus de passé, qu'on n'a pas de présent et qu'on n'a pas encore d'avenir, c'est un moment absolument décisif. Et puis là,
et puis ils rencontrent les combattants du Yishuv.
Voilà, là, les Français libres, enfin, ils ont l'air de clochards du désert.
Ils sont 300.
Complètement hirsutes, c'est plutôt une horde sauvage. Ils sont 300, comme les 300 Spartiates de Léonidas. Et en vérité, l'accueil est un peu glacial de tous les côtés. Côté britannique, parce qu'ils s'attendaient à voir débarquer des régiments entiers avec leurs chefs, leurs hauts gradés. Or, comme on sait, les hauts gradés n'ont pas suivi l'aventure gaulliste en majorité. Deuxièmement, les Français maréchalistes, en grande majorité, voudraient les voir déguerpir. Et donc, leurs seuls camarades avec qui ils fraternisent, paria ici, paria là, ce sont les jeunes sionistes.
Alors ça, c'est le premier contact.
Oui.
Mais il y a un deuxième contact que vous racontez de manière passionnante, que moi je connaissais pas du tout. C'est l'histoire de Radio Levant, libre, des Français libres, et où Zirnel, pendant quelques mois, va être journaliste. Et où va se trouver cette radio ?
Oui, alors justement, c'est l'époque. Donc, on est en 41, il est au Caire, il travaille avec Gorz à la propagande, mais ils n'ont pas assez de temps d'antenne, ni à Jérusalem, ni au Caire, et en plus, il y a la censure anglaise. Donc, il retourne voir un de ses copains de juillet 40, un certain David Cohen, qui était à l'époque le maire adjoint de Haïfa, qui va siéger à la Knesset après 49, et à Cohen, qui avait travaillé à Kol Israël, leur dit, écoutez, on pourrait peut-être installer votre radio clandestine, parce qu'il fallait émettre vers la Syrie française pour arracher le Levant français au giron de Vichy. Mais il dit, il va y avoir des allers-retours pour le ravitaillement, ça va pas être bon, vous allez vous faire repérer très vite. J'ai une bien meilleure idée. J'habite le plus grand immeuble de Haïfa à l'époque, on appelait Abayt Agadol, avec ma femme, j'ai de la place, on va installer toute la rédaction chez moi, ils étaient 10. Et le seul problème, c'est de planquer l'antenne qui fait quand même 41 mètres de long, mais il se débrouille, il la planque sur le toit terrasse. Et donc voilà que la première radio vraiment libre de la France libre, à part celle de Brazzaville, a émis non seulement depuis le Yishuv, depuis le foyer juif, mais depuis le foyer d'un juif en particulier, à savoir David Cohen. Et là, il se déchaîne au micro, Zirnel aussi. On trouve là aussi François Coulet, qui deviendra le chef du cabinet de Gaulle. Et c'est une aventure radiophonique superbe, qui en effet n'est pas très connue. Et c'est la preuve de la collaboration très étroite, des premiers FFL et des sionistes en 40.
Tout à fait. D'ailleurs, au moment de Bir Hakeim, ils vont combattre aux armes à la main, côte à côte, la brigade juive de Palestine, comme les bataillons de la Légion étrangère et comme les combattants des SAS, dont Zirnel. Donc Zirnel a été aux côtés de ses camarades juifs du début jusqu'à la fin de sa très courte guerre.
Absolument.
Alexandra Léniel-Lavastine, je vous remercie. J'encourage vraiment tous nos auditrices et nos auditeurs à vous précipiter pour acheter en librairie Le Chant d'un partisan, un grand patriote, un grand philosophe, un grand héros qui nous apprend toutes les valeurs de l'engagement, de la résistance et être debout. C'est un homme debout, comme vous les aimez, Alexandra.
Et je crois que c'est surtout un héros plus actuel que jamais aujourd'hui, en 2025, où on serait aussi bien avisé de se demander comment se tenir debout par gros temps. Et lui, c'est un maître à se tenir debout.
Tout à fait, comme on le rappelle, les combattants israéliens d'aujourd'hui.
Absolument.